Les voies de service, mercredi, le 14 novembre 2018. Bonjour tout le monde, c'est Daniel Lachance au micro de Canal M pour les voies de service en ce premier jour d'hiver 2018.
Et c'est pas chaud.
C'est l'hiver 40 jours avant le temps, presque. Là, hein? Mais bon, on est ici quand même, peut-être pas l'équipe au complet, mais non. Je suis avec Serge Bradet. Bonjour Serge.
Allô, allô.
Et Jean-Sébastien. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour à tous. Petite leçon de mathématiques, Daniel, nous sommes le 14 novembre, donc oui. Ce n'est pas dans 40 jours l'hiver. Non, c'est dans vrai. Un mois et une semaine déjà.
Je voulais tellement que ça soit plus loin que
ben,
ça.
Oui.
Ça passe trop vite. Hein?
Jean-Sébastien, vous êtes rabat-joie ce matin.
Ouais. Oui, c'est mon rôle principal.
Ça veut dire qu'on est quoi, à peu près à une trentaine de jours, un peu plus, ben, avant Noël?
Ah ouais, ben oui, ben oui, c'est le 14.
On est dans une quarantaine de jours avant Noël.
Ah, c'est ça que je voulais dire. J'étais quand même pas loin, là, 40 jours avant Noël. Bon, trêve de baliverne, d'hiver et tout ça. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Serge?
Moi, j'ai deux articles dans la première partie. Un sur toujours dans le cadre de l'armistice qui a été célébré samedi. Un des derniers soldats à être décédé durant la guerre. Il est mort 2 minutes avant la fin de la guerre, avant la proclamation de l'armistice, et c'est un Canadien.
OK.
Alors, je vais vous parler de ça. Et également, on a découvert les premières fortifications de Québec.
OK.
Alors, on va jaser de ça aussi.
Et moi, bien entendu, je vais vous parler de musique, et c'est sûrement pas une nouvelle pour personne, là, mais certains groupes appelés les Beatles qui viennent encore de lancer une réédition d'un album célèbre qui fête son 50e anniversaire cette année. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Donc, Serge, on parle de l'armistice.
Oui, le dernier, oui, un Canadien est mort 2 minutes avant la proclamation de l'armistice. Alors, il aurait eu la vie sauve si c'est deux minutes plus tard, c'est un peu...
Oui, mais je ne sais pas à l'époque si les nouvelles allaient aussi
vite. Ben, c'est ça justement qu'on, c'est ça qu'on parle dans la...
Ben oui.
Le Canadien, c'est un article de la Presse Plus de mercredi, de samedi le 11 novembre, donc, de Jean-Christophe Lawrence. Le Canadien George Price détient le titre peu enviable d'être l'un des derniers soldats tués sur le front le 11 novembre 1918. Dans un petit village de Belgique, son nom est partout. Ça, c'est assez touchant. Quand j'ai lu l'article, c'était vraiment touchant. Il pleut à Ville-sur-Aisne, près du canal qui borde le village. Des hommes s'activent à planter des arbustes et à préparer le terrain qui recevra dans quelques jours le mémorial dédié à George Lawrence Price. C'est ici, à quelques mètres à peine, que ce soldat canadien a été tué le 11 novembre 1918 à 10h58, soit 2 minutes avant le début du cessez-le-feu qui allait mettre un terme à la Première Guerre mondiale, donc à 11h. Pour le 100e anniversaire de l'armistice, la commune lui rend hommage, notamment par une cérémonie où se trouvait le gouverneur général du Canada, Mme Payette. Price est un peu le symbole de cette génération sacrifiée inutilement, résume Corentin Nalal-Tambi, qui coordonne la commémoration. Inconnu au Canada, George Lawrence Price, moi je n'avais jamais entendu parler,
non plus, j'imagine,
est une sorte de légende à Ville-sur-Aisne, et pas seulement à cause du monument en pierre bleue réalisé par un artiste local, officiellement dévoilé pour le 100e. Un petit tour dans le village permet de constater que son nom est partout. Il y a un pont George Price, une avenue George Price, et même une école George Price. Sans parler de la pièce de théâtre créée à sa mémoire pour le 100e anniversaire de l'armistice, et de la rose George Price, qui sera éventuellement commercialisée.
Donc, nul n'est prophète en son pays, mais lui est vraiment un héros à l'extérieur.
Une seule balle a suffi. Il faut dire que sa mort a de quoi frapper l'imagination. Lorsque ce soldat du 2e classe arrive sur les lieux, au sein du 28e bataillon de l'infanterie canadienne, quelques combats se poursuivent encore sur le front belge. Passé par Liverpool et Southampton, en Angleterre, puis envoyé en Belgique, Ce jeune agriculteur, originaire de la Nouvelle-Écosse, a déjà participé à quelques batailles en France et échappé de justesse au gaz allemand. Le 11 novembre, à 5h20 du matin, l'armistice est signé entre les chefs des armées alliées allemandes. Le cessez-le-feu doit entrer en vigueur à 11h du matin. Mais l'information, comme on le disait tout à l'heure, venue de Compiègne en France, tarde à se rendre jusqu'à la petite bourgade de Ville-sur-Aisne où les hostilités se poursuivent. Fini? Comment pouvait-on savoir que c'était fini? Ce n'était certainement pas fini là où nous étions, relatera plus tard le soldat Art Goodmurphy, qui était sur place dans un long papier sur George Price publié en 1980 dans le Reader's Digest. Chargé de sécuriser les ponts qui divisent la ville, le jeune soldat traverse le canal sans savoir que l'armistice est signé. Sa patrouille fouille les maisons pour déloger les derniers soldats de l'armée adverse. C'est en sortant dans la rue, malgré les avertissements des habitants, que Price est abattu par un tireur allemand embusqué. Une seule balle a suffi. Le Canadien s'effondre devant la maison où il meurt dans les bras d'une jeune institutrice après lui avoir donné la fleur en papier maculée de sang qu'il avait dans sa poche. 2 minutes plus tard, les cloches de l'église annoncent la fin de la guerre. Price avait 25 ans et une fiancée en Saskatchewan. Alors, l'histoire aurait pu en rester là, mais en 1968, pour le 50e anniversaire de l'armistice, le nom de George Price refait surface. Une stèle est accrochée au mur de la maison où le soldat a rendu l'âme avec sa photo dans un cadre. La seule qu'on ait de lui en uniforme militaire. Depuis, son nom s'inscrit progressivement dans la légende locale. Tous les 11 novembre, des fleurs sont déposées près de la plaque jusqu'à ce qu'on détruise la maison à la fin des années 80 pour construire un nouveau canal. Le pont qui l'enjambe sera baptisé le pont George Price, justement. La fleur en papier de son côté sera conservée précieusement par les habitants de Ville-sur-Aisne jusqu'à ce qu'elle soit remise en 1990 au neveu de Price, George Barkhouse, qui la conserve toujours précieusement. Elle est dans un cadre dans ma chambre, raconte l'homme de 89 ans, joint par la presse, à King Fort, en Nouvelle-Écosse. Je la regarde avec beaucoup d'humilité. Je n'ai pas connu mon oncle, mais ce que ces soldats ont fait là-bas dépasse l'entendement. Alors voilà.
Eh bien, tantôt, je vous ai mentionné qu'on parlerait du 50e anniversaire d'un album, un album célèbre, d'un groupe célèbre. Mais avant, je vais vous parler d'un autre 50e anniversaire qui touche le même groupe et qui a un peu passé inaperçu. Pardon, et je me demande un peu pourquoi. Est-ce que vous avez déjà entendu le titre Yellow Submarine?
Ah ben oui,
c'est un film d'animation, ce qui est devenu un film culte très connu.
Ben oui.
Et un article que j'ai trouvé qui est paru il y a quelques semaines, au mois d'octobre, dans rollingstone.fr, Yellow Submarine a 50 ans. Et voilà, that's it. On n'a pas entendu plus que ça. Mais je trouvais que ça valait la peine quand même de le souligner.
Yellow Submarine.
Oui, en 1968, John Paul, George et Ringo signaient leurs aventures colorées devenues depuis un petit chef-d'œuvre. À l'occasion de la réédition, retour sur un mythe devenu intemporel. Et l'histoire est quand même assez intéressante. Je me souvenais vaguement de ça. Mm-hmm. Le contexte, on le connaît pas tout le temps. On est en 1968. Brian Epstein, qui était leur gérant, il avait signé un contrat de 3 films avec United Artists auparavant. Et les Beatles, donc, étaient contraints de donner une suite à leur premier film qui avait été fait en 63 ou 64, je pense, Hard Day's Night, en noir et blanc. Et le deuxième, Help, en 1965, qui lui avait été en couleur. Aucun autre film après. Mais donc, ils sont liés d'en faire un autre.
Mm-hmm.
Ils n'en ont pourtant aucune envie. Epstein demande donc à Al Brodax, un des producteurs de la série animée consacrée au groupe. Ça, c'est une autre chose. Il y a beaucoup de monde qui ne se souviennent pas de ça et qui confondent souvent les deux. Avant, il y avait le samedi matin avec les cartoons. Il y avait, il y avait les dessins animés des Beatles aussi. Et c'était pas de très bonne qualité et c'était juste un prétexte. C'était comme des vidéoclips, mais en dessin animé, dans le fond. C'était toujours un prétexte à passer des chansons des Beatles pour vendre. Mm-hmm. Bon. Donc, Epstein a demandé à Brodax, qui était un des producteurs de cette série-là, de faire un long métrage d'animation. Et compte tenu de la qualité de la série, comme je l'ai dit, c'était pas très, très... Moi, j'aimais ça parce que j'étais tout jeune à l'époque, mais c'était pas très bon. Compte tenu de la qualité, les 4 musiciens ne sont pas ravis. Reste qu'ils n'ont pas besoin d'être impliqués. Alors, si ça leur permet de remplir leur contrat, ça leur convient. Ils sont d'accord. Faire un film d'animation pour se débarrasser du contrat de film avec United. Donc, Brodax commençait à réunir une équipe de créatifs, dont, ça aussi je l'ai appris là, le dessinateur canadien George Dunning, réalisateur Charles Jenkins, et plusieurs scénaristes, dont Eric Segal, celui qui allait écrire plus tard le film célèbre Love Story. Donc, il y a du monde là-dessus qui ont travaillé, des gens assez connus. C'est Jenkins qui suggère d'engager Heinz Edelman, un graphiste tchéco-allemand, mieux connu pour son travail pour le magazine Twin. C'est lui qui amènera l'idée du récit comme une série de courts-métrages, de sorte que le film varie toutes les 5 minutes environ pour susciter l'intérêt. Il est dit que tout ce beau monde avait du mal à décider d'une direction quand Sir George Martin, qui était le producteur musical des Beatles, les a réunis en 1967 et leur a fait écouter le nouvel album que les Beatles venaient de sortir à l'époque, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ils peuvent enfin commencer à naviguer. Le résultat sera finalement au goût des Beatles. En fait, ils l'aimèrent tellement qu'ils acceptèrent de prendre part à sa réalisation avant de se rendre en Inde pour étudier la méditation transcendantale. Mm-hmm. Ça, je vais vous en reparler tantôt. Mm-hmm. La bande originale comprend beaucoup de morceaux instrumentaux qui sont composés par George Martin et 4 chansons inédites enregistrées un peu sous la contrainte, parce que les gars avaient plus ou moins le goût de travailler sur ce projet-là. Mais tout cela combiné avec 10 chansons plus anciennes et un scénario dissolu, mettant en scène la ville de Pepperland, un petit peu en rapport avec Sgt. Pepper, assiégée par des opposants à la peau bleue, a fait de Yellow Submarine un film singulier, à part, une comédie musicale disparate qui transforma littéralement les pop stars en œuvres d'art. Revoir Yellow Submarine aujourd'hui, c'est plonger dans les eaux profondes des années 60. C'est une merveille visuelle. Peu importe le nombre de fois que vous le regarderez, vous serez impressionné. La séquence consacrée à Eleanor Rigby, une symphonie grisonnante mettant en scène une Angleterre morne, vaut à elle seule le détour. Et on va l'écouter tantôt. Diffusée pour la première fois un dimanche après-midi, Yellow Submarine a pour beaucoup été la porte d'entrée vers l'univers des Fab Four. Super-héros aux costumes délirants, ils pourfendent de vilaines bestioles et sauvent le monde. Et voilà des musiciens un peu communs. Il est donc étonnant de penser qu'au fond, il ne s'agissait que d'une obligation contractuelle. Si on se rappelle, c'est de cette façon-là que ça a été fait. Quand vous voyez le quatuor batifolé dans ce pays des rêves aux couleurs de l'arc-en-ciel, vous ne pouvez qu'avoir l'impression d'être passé de l'autre côté du miroir. Et soudain, les Beatles apparaissent en chair et en os, vêtus de chemises ternes, et ils n'ont pas grand-chose à voir avec leur alter ego. Ils échangent quelques blagues avant de reprendre en chœur « All together now », en français « Tous ensemble maintenant ». Rarement ce message aura été autant d'actualité. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? church and was buried along with Et c'était Eleanor Rigby qui est apparue dans le film Yellow Submarine il y a déjà 50 ans. Et Serge, on continue avec...
Oui, les premières fortifications de Québec retrouvées. Alors, c'est dans la presse plus de mercredi. Mercredi, c'est ça, le 7 novembre. Alors, un article de Gabriel Bélan. Il y a environ une vingtaine de jours, les ouvriers d'un chantier de construction ont fait une stupéfiante découverte dans le Vieux-Québec. Sous la terre, dans la glaise, se trouvaient les restes de la première fortification construite à Québec pour résister spécifiquement à l'assaut des Anglais. C'était le rempart de Beaucourt. Les archéologues cherchaient en vain depuis des années les vestiges de ce mur construit en 1693. La palissade de bois et de terre appartient à un type unique de fortification appelé un rempart palissadé. Alors, c'était pas un rempart de pierre, là, c'était vraiment une palissade. Il s'agit, ça qui est intéressant, de l'unique vestige du genre connu en Amérique du Nord. Moi, j'en ai vu dans des reportages sur Historia et Canal D, et on voit dans d'autres pays, ils en ont construit dans les années 1400, 1500 avant l'arrivée du canon, mais en Amérique du Nord, c'est le seul qui a été préservé. Ils en ont construit aussi ici en Amérique du Nord, mais c'était le seul qui a réussi à être...
Les autres ont été démantelés éventuellement,
oui, j'imagine. Oui. Alors, c'est une découverte majeure pour la ville de Québec, mais aussi pour tout le Québec, s'est réjoui le premier ministre, M. Legault, hier matin. Hier matin, on parle évidemment de la semaine dernière, lors d'une conférence de presse pour annoncer la découverte. Ces vestiges de bois vieux de 325 ans quand même ont été retrouvés dans un chantier de construction de la rue Saint-Ursule dans le Vieux-Québec. La fortification avait été remplacée en 1745 par les remparts actuels faits de maçonnerie. Le bois a été préservé par une chance inouïe, enfoui dans la glaise, là où un vieux ruisseau coulait naguère, il a résisté au passage des années. Il s'agit notamment de thuya, les bois là, de thuya occidental ou cèdre blanc. C'est une essence de bois réputée imputrescible.
Donc, on devrait faire nos patios avec ça.
Ben oui.
Sur quelques siècles.
Ouais. On a réussi à préserver cette nation qui parle français et je suis vraiment fier en tant que chef de la nation québécoise de m'assurer qu'on préserve ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on préserve l'histoire, a ajouté M. Legault. Le morceau de muraille retrouvé sera extirpé de terre avant l'hiver. Le bois est gorgé d'eau et le gel qui s'en vient, comme ce matin, pourrait lui être fatal. Il sera ensuite entreposé. Il faudra 2 ans pour assécher le bois complètement. Le rempart palissadé sera ensuite exposé au public à un endroit qui reste à déterminer. Une déclaration de M. Labaume. La palissade était un des derniers mystères qui restait dans cette ville-là, a lancé le maire Régis Labaume lors d'une conférence de presse hier. Mais il en reste un très gros, le tombeau de Champlain, qui n'a jamais été retrouvé. On ne sait pas où il est.
Il serait à Québec
La région. Oui, il est mort. Oui, ce sera au Québec. Mm-hmm. Ouais, des rumeurs qui circulent, c'est vrai qu'il sera en France, mais la plupart s'entendent pour dire qu'il serait au Québec. Le rempart palissadé de Beaucourt avait été érigé pour se défendre des attaques européennes, notamment celles des Anglais.
OK, donc ça n'a pas fonctionné.
Non, mais ça a fonctionné, oui, parce que...
Un certain temps.
Une autre palissade avait été érigée avant 1693 à Québec, mais elle n'était pas capable de résister à l'artillerie. Mais en 1690, l'officier anglais William Phipps arrive à Québec. Il commande 32 navires et 2000 miliciens. Il envoie un émissaire auprès du comte de Frontenac pour négocier la reddition de Québec. L'émissaire se fait bander les yeux et les Français tentent par tous les moyens de lui faire croire que la ville est bien défendue. Alors, comme il marchait les yeux bandés, bien évidemment, là, on en faisait du bruit autour. Les soldats revenaient sans cesse repasser devant lui. Et évidemment, la célèbre réponse de Frontenac, « Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par... »
La bouche de mes canons.
La bouche de mes canons et à coup de fusil, aurait-il ajouté. Rétorque alors Frontenac, l'émissaire, dans sa boutade devenue célèbre. Les Français réussiront à résister au siège cette fois-là, mais l'épisode marquera Frontenac. À partir de là, les autorités françaises réalisent qu'une invasion à l'européenne avec des navires, des troupes, est possible, raconte l'archéologue Jean-Yves Pintal de la firme Ruralis qui supervisait les travaux de la rue Saint-Ursule. Le mandat est donc donné à José Dubois Berthelot de Beaucourt, diriger une fortification plus costaude, capable de résister à l'artillerie. Le mur sera donc construit en 1693 de bois et de terre tout autour de Québec. Alors, c'est un rempart palissadé, une forme d'évolution entre la palissade et les remparts fortifiés en maçonnerie, explique M. Pintal. Québec aurait été la seule ville en Amérique du Nord à avoir été munie d'un rempart palissadé.
Et voilà.
Ouais.
Donc, l'anniversaire dont je vous ai parlé tantôt, ben, j'ai parlé du film Yellow Submarine, mais mm-hmm. l'anniversaire dont tout le monde parle récemment, c'est l'album blanc des Beatles, le White Album, qui fête ses 50 ans cette année. Il avait été lancé en novembre 1968, mm-hmm. des dates différentes dépendamment de l'endroit. Là, je pense qu'aux États-Unis, c'est le 22 novembre, au Québec, au Canada, le 25, mm-hmm. en Angleterre, une autre date. En novembre mm-hmm. 1968. Donc, l'album blanc, pièce maîtresse de la discographie des Beatles, fête ses 50 ans ce mois-ci. Comment sont nés et de quoi parlent quelques-unes des 30 chansons de ce double album qui tourne le dos au psychédélisme de Sgt. Pepper? Et quels étaient les signes de la désintégration en sourdine des Fab Four? Donc, l'article que j'ai trouvé, c'est sur le site culturebox.france/vinfo. Et donc, c'est 10 choses à savoir pour souffler dignement les 50 bougies de ce chef-d'œuvre. Première chose, un album né en Inde. Je vous ai parlé tantôt, quand mm-hmm. on a parlé du film, les gars s'en allaient en Inde. Bon. Mm-hmm. Ce double album, l'un des premiers de l'histoire, annonce le retour au rock et marque la fin de la période psychédélique des Beatles, dont Sgt. Pepper était l'apogée l'année précédente. L'album blanc est pourtant né en Inde. C'est sur une suggestion de George Harrison. Le groupe s'envole avec femme et amis en février 1968 pour Rishikesh, situé au nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya. Il s'agit d'y suivre les enseignements du Maharishi Mahesh Yogi, qui consistent principalement en de longues méditations transcendantales. Livrés à eux-mêmes, entre parenthèses, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont trouvé ça vraiment long et pas super intéressant. Donc, livrés à eux-mêmes et coupés des drogues, John, Paul, George et Ringo n'ont rien d'autre à faire que composer. Mm-hmm. Et je pense qu'effectivement, ils étaient souvent dans leur chambre en train d'écrire des trucs parce mm-hmm. que tout ce, le contexte là, mm-hmm. les attirait pas finalement autant qu'ils auraient aimé. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième chose, le chanteur Donovan, auteur-compositeur britannique, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose,
vaguement.
Très populaire dans les années 60. Apparemment, c'est Donovan qui aurait enseigné la technique du finger-picking à John. Et pour avoir une idée de ce que ça donne, on va écouter un petit bout, puis je vais vous expliquer après. Ça, on vient d'entendre mm-hmm. Donovan, justement. À l'époque, les Beatles, si on se souvient, si on écoute ce qu'ils faisaient au début, c'était beaucoup jouer la guitare avec un pic, plaquer des accords, c'était assez rough. Mm-hmm. Le finger picking, si vous voyez, c'est quand, dans le fond, on utilise les doigts de la main droite pour pincer les cordes et pas gratter les cordes avec un pic. Donc, c'est tout simplement ça. Okay. Ça existait avant, puis il en faisait peut-être déjà un peu avant, mais là, semblerait que c'est Donovan qui l'a remontré.
Bon.
Sur place en Inde, les Fab Four disposent de peu d'instruments à part des guitares, mais dans leur bagage, ils ont amené leur entourage. Leur ami musicien Donovan, dont le goût pour la spiritualité n'est pas étranger à l'intérêt des Beatles pour la méditation et du voyage. C'est lui qui apprendra le picking à George Harrison et à John Lennon. Ce dernier utilisera cette technique particulière de jeu venue du blues et du country sur deux chansons qui vont apparaître sur l'album mm-hmm. blanc, Julia et Dear Prudence, qui ont été composées sur place.
Come out to play.
Ici Daniel Lachance au micro de Canal M et on est de retour avec l'émission Les Voix de service du mercredi 14 novembre 2018. Et Serge, de quoi allons-nous parler maintenant?
Moi, j'ai deux articles. Un que j'ai trouvé dans une revue de Cap au Diamant qui date du printemps 1990.
OK. Ben, c'est de la vraie histoire. Là.
Oui,
c'est
comme... une histoire qui s'appelle Montréal en carte postale.
Ah, OK. Oui. Ça existe encore, des cartes postales?
Ben, c'est ça. Quand avez-vous envoyé une carte postale pour la dernière fois,
je
Daniel, Jean-Sébastien?
Je ne sais pas.
Ça fait une bonne... c'était début des années 2000, je pense.
Oui, ouais, ah, oui je déjà, pense que... quand même. Ah bon, OK.
Aujourd'hui,
ouais.
On va dans une boutique, on prend une photo, on l'envoie par Messenger.
Ben oui. C'est probablement plus simple. Moi, j'ai plein de mes aventures d'écrire des cartes postales qui ne se sont jamais rendues à bon port.
Oui, oui, ou tu reviens de vacances bien avant la carte.
Ça, ça aussi.
On a déjà vécu ça.
Et également, une petite histoire des agrumes.
OK.
Oui, oui, oui.
Et moi, tantôt, ben, je vais continuer à vous parler du 50e anniversaire du White Album. Donc, on vous écoute.
Alors, c'est un article de Jacques Poitras dans cette revue-là, Le Cap au Diamant du printemps 90. D'ailleurs, à l'époque, savez-vous combien ça se vendait en 90?
90, ça fait quand même, oui, 28 ans, j'ai aucune idée. Ouais.
Aujourd'hui, ça se vend une revue qui se vend dans les 12 $, je crois, et c'était 5,25 à l'époque.
Wow.
Ça a doublé.
Canadien?
Oui, Canadien, oui, c'est vraiment pas cher. Ouais. Alors, inventé en Autriche en 1869 et adopté par le gouvernement canadien dès l'année 1871, la carte postale n'admettait aucune illustration à ses débuts. Cependant, à compter de 1897-98, la plupart des pays occidentaux se convertissent aux vertus de l'image. Alors, c'était, j'imagine, au début juste un dessin ou une pensée. Au Canada, les premières gravures officielles sur cartes postales apparaissent vraisemblablement à Montréal. De conception européenne, ces premiers modèles proviennent généralement d'Allemagne. Au cours des années subséquentes, l'emprise européenne, surtout françaises et britanniques, on le comprend au Québec, se maintient pour chacune des étapes de production. En 1907, l'intérêt de la France envers le Québec se manifeste par la venue au Canada d'un important producteur parisien de cartes postales. C'est la maison d'édition Neurdin Frère, spécialiste des vues photographiques régionales, et ils envoient un de leurs meilleurs photographes au Canada. Plusieurs des 600 cartes diffusées à compter de 1908 décrivent le Québec d'alors, notamment les sites et les monuments de la région de Montréal. La qualité photographique inégalée, le souci du détail architectural, mais davantage la recherche constante d'une animation urbaine confère à ces images montréalaises une authenticité et une originalité incomparables. L'intervention québécoise des frères Étienne et Antoine Neurdin, dont l'entreprise avait été fondée en 1887, se veut avant tout une mission touristique. Les messages à caractère idéologique sont quasi absents ou pratiquement imperceptibles dans la production nord-américaine de Neurdin Frères. La firme française arrive ici en territoire britannique et croque l'instantané d'une ville où le modernisme et le renouveau relèvent d'une autre culture. Au tournant du siècle, la plupart des édifices montréalais dignes d'intérêt, à l'exception des constructions religieuses, ont été érigés par l'élite anglo-britannique. Mm-hmm. Il existe bien quelques vestiges de la présence française en Nouvelle-France, mais Neurdin s'y intéresse peu ou pas. Au début du siècle, la Grande-Bretagne constitue un des pays de prédilection pour le développement de la carte postale. Les anglo-saxons comptent d'ailleurs plusieurs manufacturiers d'envergure internationale. Dès 1906, le plus prolifique de ses artisans, James Valentine and Sons d'Écosse, effectue une tournée au Canada. À l'époque, les Britanniques entreprennent de diffuser des centaines d'images vantant les mérites de la principale ville de la province et ses principaux attraits touristiques. Valentine and Sons vise avant tout la clientèle des touristes voyageurs et paraît négliger les collectionneurs montréalais. Par ailleurs, une étude plus détaillée de l'iconographie montréalaise produite par cette maison de 1906 à 1918 laisse deviner un bien mince effort à comprendre la majorité francophone de la métropole.
Ouais. C'est surprenant.
Ouais. Leur production traduit une vision toute britannique. Les cartes postales sont photographiées et diffusées à Montréal par des intermédiaires également. Ce sont les sujets d'un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Mm-hmm. C'est une façon aussi de faire la promotion de l'Empire britannique.
Hein? Ben oui, ouais. Un genre de propagande.
Mm-hmm, mm-hmm. À cette époque, la communauté britannique se compose d'une bourgeoisie qui a su tisser au fil des ans un réseau de liens économiques qui s'étend aux autres grandes villes de la province. Parmi ces Britanniques, les Écossais forment un des groupes les plus influents. Au sommet de l'empire financier montréalais du tournant du siècle, les Écossais ont tout fait d'étendre au milieu artistique et culturel leur réussite économique. Les émissaires de la maison Valentine débarquent à Montréal en pays de connaissance. Ils bénéficient bientôt d'un traitement de faveur de la part de l'élite locale, notamment du célèbre studio Notman, qui met ses innombrables clichés à leur disposition. Bon, il existe peu de preuves tangibles de cette connivence, mais les faits parlent d'eux-mêmes. La plupart des vues de James Valentine dressent un tableau assez complet des réalisations britanniques dans la ville. Les monuments d'architecture civile et religieuse, la statuaire anglaise jusqu'au sport pratiqué par la bourgeoisie composent bon nombre d'images de la série montréalaise de l'éditeur. Néanmoins, certaines cartes postales s'attardent aux créations francophones.
Quelques-unes.
Quelques-unes, néanmoins. Néanmoins.
Et je vais continuer. Non, c'était pas les Beatles, et c'était peut-être les parents ou les grands-parents. Donc, je continue avec les faits concernant le White Album, le 50e anniversaire du White Album. Qui sont Martha, Julia et Prudence, dont les chansons portent les noms? Mm-hmm. Est-ce que vous savez? Il y en a quelques-unes que je savais là-dedans, mais j'étais sur
les premières flammes.
Ça aurait pu. Donc, à qui s'adressent les mots d'amour de Martha, my dear, écrites par Paul McCartney? À sa chienne Martha, un bobtail alors âgé de 3 ans. Donc.
Non, mais ben, je comprends. Beaucoup, moi, j'ai un petit chien schnauzer que j'ai adoré. Bon, puis voilà. Broussy, qu'elle s'appelait. Puis j'y pense souvent. Donc, j'aurais pu lui écrire une.
C'est peut-être pas une mauvaise idée de le faire. Oui. Et qui est Julia? Celle-là, d'après moi, il y a plusieurs personnes qui le savent. Je suis sûr que c'est tout le monde qui nous écoute. On dit, ah oui, celle-là, c'est pas nouveau. Mais dans le fond, Julia, qui est quand même une des plus douces ballades que John Lennon a écrites, c'était sa mère disparue tragiquement dans un accident d'auto. Oh. Elle a été frappée par une auto quand il était adolescent. Ah. Et quant à Prudence, de la chanson Dear Prudence, qu'on a écoutée tantôt, il s'agit de la sœur de l'actrice Mia Farrow.
Ah.
Vous connaissez Mia Farrow?
Mm-hmm, mm-hmm.
Les deux jeunes femmes se trouvaient déjà à l'ashram de Rishikesh à l'arrivée des Beatles. Un peu extrême, Prudence était enfermée en méditation depuis 3 semaines.
Mm-hmm.
Et John a écrit cette chanson-là pour tenter de la faire sortir un peu de ça. Dans la chanson, on dit « Dear Prudence, won't you come out and play?
Mm-hmm. »
Donc, chère Prudence, ne veux-tu pas sortir et jouer? Et Revolution, quatrième point à savoir, marque l'entrée en scène de Yoko Ono.
Ah,
c'est peut-être pas la super bonne nouvelle de l'album. Revolution est un cas. Il s'agit de la première chanson des Fab Four à être sortie en 3 versions différentes.
Mm-hmm.
Revolution 1 et Revolution 9 figurent sur l'album blanc et Revolution, tout court, se trouve en face B de Hey Jude, qui est sorti seulement en single. C'est 3 versions complètement, complètement différentes. Dans ce titre, John Lennon veut donner son avis sur la guerre du Vietnam, mais il le fait maladroitement et se prononce sur la Révolution de façon ambiguë. Refusant de choisir entre en être ou pas, ce qui lui sera vivement reproché par les milieux de gauche. Mais cette chanson marque surtout la première intrusion en studio d'une personne extérieure au quatuor. Yoko Ono, la nouvelle compagne de John Lennon, est constamment là, même quand elle est malade, lors des séances d'enregistrement. L'artiste expérimentale japonaise n'est pas impressionnée par les Beatles, donne son avis sans retenue et sa présence provoque un malaise diffus au sein du quatuor. On se demande pourquoi. Elle va jusqu'à co-signer Revolution 9, qui dans le fond, pour la plupart du monde, n'est pas la pièce la plus importante de l'album. Au contraire, c'est une pièce qu'on aurait pu éviter. Un collage sonore délirant de plus de 8 minutes dont McCartney ne voulait pas sur le double album. on entend des prises qui sont jouées à l'envers, on entend tout ça. Ouais. C'est vraiment... c'est le bord d'être insupportable. Donc, non pas parce que ça lui semblait trop radical, comme beaucoup l'ont supposé, mais parce qu'il le trouvait bien en deçà du Fontana Mix de John Cage, paru 10 ans plus tôt. Mm-hmm. Pour Paul, les Beatles se devaient de rester à l'avant-garde et ne pouvaient pas se permettre d'être à la traîne. Et cinquième point, Helter Skelter entendait surpasser le bruit rock des Who. Et ça, j'en avais déjà parlé ici. Helter Skelter, souvent considéré comme le titre qui a allumé la mèche du hard rock, a été créé en réponse à une chanson des Who. Paul avait lu dans la presse une interview de Pete Townshend des Who assurant que leur nouveau single, qui s'intitulait « I Can See 4 Miles », était le titre le plus... Bon, furibard, c'est peut-être pas le son que Pete Townshend a utilisé, le mot. Je sais pas comment est-ce qu'il l'a dit en anglais, mais bon. Le titre le plus furibard qu'ils aient jamais enregistré. Intrigué, mais déçu à l'écoute du morceau, il décida aussitôt de le surpasser. Mission accomplie avec ce Helter Skelter bruyant et sauvage dans lequel il évoquait la chute de l'Empire romain. Donc, Helter Skelter figure en fond sonore pour la bande sonore de la bande annonce, pardon, de la réédition anniversaire de l'album blanc. Et là, en attendant de continuer ce truc-là, on va peut-être écouter une autre chanson de l'album blanc, une de Ringo.
On vient d'entendre les Beatles et la pièce Savoy Truffle. On a changé le chant de Ringo Starr pour une pièce de George Harrison, finalement.
Oui, c'est correct. Je pense que c'était un très bon choix aussi. Je voulais avoir au moins une de McCartney, une de Lennon, une de George Harrison et peut-être une de Ringo si on a le temps. Mais je trouvais que, dans, en priorité, j'aimais celle de George Harrison. Donc, on va continuer avec Serge...
Oui, les agrumes.
Les agrumes.
Oui, c'est un article dans la revue Secrets d'Histoire numéro 19 qui est paru cet été. Alors, un article de Françoise Surcouf. L'étymologie ne leur rend pas honneur, puisque les agrumes tirent leur nom du latin acrumen, A-C-R-U-M-E-N, qui veut dire fruit aigre.
Ah,
eh oui.
Ben, mais il y en a quelques-uns quand même qui ont un goût.
Mais ce sont pourtant des fruits appréciés. Quoi de plus normal, ils sont si savoureux. L'orange, mandarine, clémentine, pomelo, citron, et plus rare, les tangelots ou tangors qu'on appelle. La famille des agrumes s'élargit aussi à la bergamote et à la bigarade, dont l'huile essentielle est prisée. Des fruits venus d'où? Risqueriez-vous une origine?
Sûrement d'un pays du sud.
Venus d'Asie.
Oui.
Ouais. Ah. Les chercheurs situent l'origine des agrumes dans le sud-est asiatique, 4000 ans avant notre ère. On a trouvé une vidéo qui me démontre.
Sur YouTube.
Oui, c'est ça. Leur culture progresse vers l'ouest, chez les Sumériens, puis en Égypte ancienne. Importés en Afrique du Nord, sous l'Empire romain, ils gagnent le sud de l'Europe au Moyen Âge, époque où ils connaissent une grande vogue. Ils conquièrent ensuite le continent américain via les expéditions maritimes espagnoles.
OK, donc les oranges de la Floride, ça poussait pas là au début.
Non. Okay. Christophe Colomb lui-même emporte des graines à son second voyage. L'orange apparaît dans nos contrées au 15e siècle, rapportée de Ceylan par les Portugais. Ceylan, au sud de l'Inde, l'île qui est au sud de l'Inde. Elle s'acclimate rapidement, comme en témoigne la magnifique orangerie du palais de Versailles, voulue par Louis XIV. La création de la clémentine. De tous les fruits.
La création de la clémentine.
Oui, vous allez voir. Okay. C'est une création, ça ne pousse pas.
Non, il faut croire.
Naturellement, oui. De tous les fruits obtenus par hybridation des différents agrumes, c'est sans doute le plus connu et le plus apprécié. C'est une hybridation.
OK.
La clémentine est née à la fin du 19e siècle, près d'Oran, en Algérie. On raconte qu'elle fut inventée par un frère. Le prénom, c'était...
Pas le frère André.
Mais non, mais la clémentine, là, franchement.
Pas le frère Clément.
Le frère Clément.
Pas très connu, mais la clémentine.
Oui. Alors, c'est un prêtre de l'orphelinat de Misergine qui eut l'idée de croiser un mandarinier avec un bigaradier, créant ici une espèce remarquable par sa qualité acidulée et la précocité de sa maturation. Presque dépourvue de pépins, c'est un gros avantage. La clémentine est autostérile. Il faut, pour reproduire un clémentinier, procéder par greffage, comme l'a fait à l'origine le frère Clément. Donc, il faut à chaque fois greffer. Des qualités médicinales. Les agrumes sont appréciés depuis très longtemps pour leurs qualités gustatives, médicinales et olfactives.
Oui.
Oui, l'huile essentielle d'oranger, c'est-tu assez bon un peu? Ah, ou de la bergamote.
Oui.
Un texte sanskrit datant de plus de 2000 avant notre ère évoque le nagaranga, fruit aimé par les éléphants, comme un remède à tous les maux. Il s'agit de l'orange.
Ah.
Oui, le nagaranga, c'est de l'orange. Dans la médecine traditionnelle arabe, le jus de citron mêlé à de l'huile d'olive ou d'amande est utilisé contre l'eczéma. Son pouvoir désinfectant est réputé. Il sert à nettoyer les blessures et à soulager l'irritation causée par les piqûres d'insectes.
Ah, et, bon à savoir.
Ouais, et durant les grandes expéditions maritimes des 16e et 17e siècles, les marins l'utilisent pour prévenir le scorbut.
Oui, vitamine C. Ouais,
provoqué par une carence en vitamine C. Alors voilà, c'était la petite histoire des agrumes.
Très intéressant. Donc, on continue avec les choses à savoir sur l'album blanc. Le sixième point, Ringo Starr claque la porte en plein enregistrement.
Oh, pas content le monsieur.
Non, ça allait pas bien. Des tensions se font jour en studio et le peu d'attention qui lui est portée serait à l'origine de son départ. Apparemment, on a entendu toutes sortes de choses sur l'album blanc, mais apparemment, c'est ça. Lui, il était comme souvent en attente pendant que les autres écrivaient, faisaient des tests. Quand c'était son tour de jouer, il était un peu tanné. Donc, à un moment donné, il est parti pendant une dizaine de jours. Il est allé rejoindre son ami Peter Sellers, l'acteur que vous connaissez sûrement, sur son yacht en Méditerranée. Et à son retour, en début de septembre, il a été accueilli par une guirlande de fleurs sur sa batterie. Apparemment, les gars s'étaient ennuyés de lui un petit peu. Mais c'est pas le seul aussi. George Martin aussi avait, qui mm-hmm. était leur producteur, et avait quitté les studios parce qu'il y avait des tensions et ça n'allait pas à son goût. Un septième point, la guitare, le solo de guitare sur la chanson While My Guitar Gently Weeps, c'est Eric Clapton qui le joue. C'est aucun des Beatles. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est un fait qui est quand même assez connu. Les gens qui nous écoutent, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui savaient déjà ça. Mm-hmm. Mais c'est mentionné à nulle part sur l'album. Et c'est George Harrison qui avait invité son ami Eric Clapton à venir jouer sur l'album parce qu'il avait peur que les autres Beatles ne prennent peut-être pas assez au sérieux sa chanson puis qu'il ne donne peut-être pas l'attention qu'il aurait mérité. Donc, il a invité son ami Eric Clapton. Ah, bon. C'est lui qui fait le solo de guitare. Sur la chanson très connue « Back in the USSR » et l'autre « Dear Prudence » qu'on a entendu tantôt, c'est Paul McCartney qui joue la batterie.
Ah.
Oui, Ringo qui avait décidé de prendre le large, comme je vous l'ai mentionné, n'était pas ni sur « Back in the USSR » ni sur « Dear Prudence ». Paul McCartney a tenu les baguettes sur ces deux chansons et c'est John qui joue de la basse et George à la guitare. Donc, ils ont fait un petit peu des changements suite au départ de Ringo. Et la chanson qu'on a écoutée tantôt, Savoy Truffle, c'est George Harrison qui l'a écrite, celle-là. Et de quoi ça parle au juste? Eric Clapton, qui avait été invité à jouer sur While My Guitar, avait un goût prononcé pour des sucreries et le chocolat en particulier. Et ça l'amenait souvent chez le dentiste à cause de ça. Sur Savoy Truffle, George Harrison se moque de lui un peu parce que les différents trucs qu'il nomme, Montélimar, Cream, Tangerine, tout ça... C'est des sucreries que George que Eric Clapton mangeait beaucoup à cette époque-là. Donc, il a écrit une chanson. Harrison a écrit une chanson pour un petit peu le gosser avec ça, faut le dire en français. Et dixième point, la dernière chose, une pochette sobre auquel le disque doit son surnom. Parce qu'on dit son surnom parce qu'il ne s'appelle pas le White Album. Il s'appelle tout simplement The Beatles. Il a fini par s'appeler White Album parce qu'il est blanc. Connu sous le nom d'album blanc White Album, ce double album s'appelait en réalité sobrement The Beatles. Il doit son surnom à sa pochette tout aussi sobre signée de l'artiste britannique Richard Hamilton, initiateur du pop art. Il s'agit d'une pochette blanche immaculée, juste ornée de l'inscription The Beatles en relief. C'est même pas à l'encre, c'est juste en relief. Ce minimalisme graphique radical, tout sauf ordinaire, prend le contre-pied de la production colorée de la pochette de leur précédent album, Sgt. Pepper, et aussi Magical Mystery Tour, qui était très, très coloré tous les deux. Hamilton a l'idée de numéroter chaque exemplaire comme on le ferait d'une gravure. Paul obtient gain de cause, au moins pour les premières éditions. Afin d'en offrir un peu plus, Hamilton glisse à l'intérieur un poster avec les paroles imprimées d'un côté et de l'autre un collage, ainsi que quatre portraits séparés de chaque membre du groupe des Fab Four. Peut-être qu'il y en a qui ont vu là-dedans un signe avant-coureur de la rupture, parce que c'était la première fois qu'on les montrait en photo séparées et non une photo de groupe. Donc, la réédition anniversaire des 50 ans de Beatles est sortie vendredi le 9 novembre, donc c'est tout récent. Puis il y a différents formats. Une édition de luxe avec 3 CD, 4 vinyles. Il y a une édition super de luxe, les Asher Demos, en tout cas. Il y en a vraiment pour tous les goûts et un peu plus, je dirais. Alors voilà pour l'histoire du White Album. Say good night.
Et avec cette pièce, on ferme la boucle. On aura entendu une pièce de chacun des Beatles. C'était donc Good Night, chanté par Monsieur Ringo Starr.
Oh, lui-même.
Oui, voilà. C'est une chanson que John Lennon avait écrite pour son fils Julian. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de la faire chanter par Ringo, mais bon.
Ah.
Donc, on continue avec.
Oui. Savez-vous que la Joconde, ce célèbre tableau, a déjà été volé?
Ben, j'ai déjà entendu parler, mais c'est vrai que je ne connais pas les détails.
C'est en 1911.
Ah, OK. Oui, c'est pour ça que je me souviens pas.
Oui. Ah, c'est un article dans « Ça m'intéresse, histoire » de l'été 2018, un article de Malika Bowen. 22 août 1911, stupeur dans le Salon Carré du Louvre. Le peintre Louis Béroux, venu au musée pour copier les maîtres italiens, n'en croit pas ses yeux. Sur la cimaise où trône habituellement la Mona Lisa de Léonard de Vinci, la Joconde, il n'y a plus que 4 crochets. La Joconde a disparu. Wish envolé. Dans l'escalier qui mène à la cour Visconti, on trouve son cadre Renaissance arraché. Les policiers du Quai des Orfèvres débarquent. On prend les empreintes des 257 employés du musée. Bredouille. Qu'a fait le coup? Ben, un gardien, un milliardaire étranger, les spéculations foisonnent dans la presse. La frange nationaliste accuse même la main des Juifs. Les limiers du 36, le poste, eux, sont sur la piste d'un artiste. Le 7 septembre 1911, il cueille un certain Guillaume Apollinaire. Oui. D'être de mise avec son ancien secrétaire, Guy Pierret, un Belge qui a déjà volé 2 statuettes phéniciennes au Louvre en 1907 et 1911. Le bougre venait d'en envoyer une à la rédaction de Paris Journal en réclamant une rançon pour la Joconde. Apollinaire passera 5 jours à la prison de la Santé, dans le purgatoire de l'ennui, le temps que la police tire ça au clair. On fera venir Pablo Picasso, soupçonné d'être son complice, pour confrontation, peine perdue. 2 ans après son vol, la toile continue de nourrir les colonnes. L'illustration offre 40 000 francs à celui qui la retrouvera, et la Société des Amis du Louvre affiche une récompense de 25 000 francs. Le 10 décembre 1913, le miracle se produit. La Joconde est retrouvée dans un hôtel de Florence grâce au flair d'un antiquaire à qui on voulait revendre l'œuvre. Le voleur est un certain Vincenzo Perugia, un vitrier qui avait travaillé au Louvre et avait même placé sous couvert le fameux Léonard le soir du 21 août 1911. Il aurait simplement profité de la fermeture du musée pour glisser la toile sous sa blouse.
Et voilà.
Et en Italie, ce monsieur-là a été considéré comme un héros parce qu'il avait... ramener en Italie une toile italienne de Léonard de Vinci.
L'histoire finit bien.
Ouais.
Donc, c'est ce qui met fin à l'émission Les Voix de service du 14 novembre 2018. Merci beaucoup Serge Bradet, merci Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde et Daniel Lachance qui vous dit à la semaine prochaine et restez avec nous dans quelques secondes. C'est Hélène Denis pour le quotidien des quotidiens.